Vous le savez, ou peut-être pas, j'ai construit quasiment l'intégralité de ma carrière sur le digital et plus spécifiquement sur les réseaux sociaux. C'est un sujet que je connais bien, qui m'a permis vraiment de m'émanciper dans mon travail, de créer ce podcast entre autres. Et pourtant, bien que je connaisse tous les aspects positifs des réseaux sociaux, je me pose vraiment la question sur l'impact délétère, monumental qu'ils peuvent avoir. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Tariq Rim pour la seconde fois. On avait déjà fait un épisode qui était le numéro 49. Pour essayer de comprendre mieux l'histoire des technologies, l'histoire d'Internet, comment tout ça s'est arrivé et l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux sur nos vies élargies, c'est-à-dire évidemment nos vies au niveau individuel, mais aussi nos vies au niveau national, voire européen. Quels sont les impacts, que ce soit des sociétés qui soient américaines, chinoises. Vous allez, je crois, adorer cette conversation qui est profonde, hyper intéressante. Tariq est extrêmement didactique. Donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Tariq.
Bonjour Greg.
Je suis ravi de te recevoir une seconde fois sur ce podcast. On avait parlé la première fois de Slow Web. En fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, encore plus que moi, on est des enfants du Web 2.0, voire toi encore plus du Web 1.0, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a, enfin j'ai l'impression, en tout cas moi, tu vas me dire pour toi, vouer les louanges du web 2.0, des réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, la situation, elle change un peu. J'aimerais bien que tu repartes de là où tu viens pour nous expliquer justement ton cheminement de pensée ensuite.
Ah, waouh! Moi, en fait, pour être tout à fait transparent, je suis un véritable dinosaure parce que j'ai eu la chance, grâce à mon père qui avait une fac extrêmement connectée, d'avoir fait ma première connexion au réseau en 1982. Donc, ça va bientôt faire, l'année prochaine, ça va faire 40 ans. Ça fait très, très long. Et donc, j'ai suivi plein d'époques différentes. Il y a eu l'époque des BBS, donc ces fameux serveurs où on mettait son ordinateur, on le connectait et d'autres personnes pouvaient se connecter, on créait ce qu'on appelait des communautés en ligne. Évidemment, le Minitel, qui a été le modem gratuit dont on s'est tous servi pour faire plein de choses. Et puis, le Web 1.0, évidemment, avec la... C'est très drôle parce que à l'époque des années 90, le gros sujet, et à l'époque, j'ai travaillé pour Radio Nova et j'étais complètement à fond là-dedans, c'était ce qu'on appelait la cyberculture et notamment la réalité virtuelle. Donc, en fait, l'ancêtre du fameux métaverse. Et puis, effectivement, entre ça, un premier crash en 1999, on a essayé de relancer le web une deuxième fois avec ce qu'on a appelé le web 2.0. Et puis, effectivement, avec NetVibes, entre autres, on a été un peu au cœur de cette révolution. Et ça n'a pas... Enfin, ça a bien marché, mais en fait, rapidement, l'Internet a été consolidé, notamment, je pense, à cause de l'iPhone, qui a concentré les pouvoirs de l'Internet en un petit nombre de mains. En gros, chaque icône de l'iPhone, c'était 1 milliard d'utilisateurs. Et il y a des boîtes nouvelles qui se sont construites, ce qu'on a appelé aux États-Unis les licornes, pour devenir des services essentiels pour l'iPhone. Et donc, ça a totalement transformé l'Internet, qui est devenu, en fait, une sorte d'organisation de notre vie sur le téléphone. Et puis aujourd'hui, il y a une autre direction qui est prise, notamment avec le Web 3, qui, à mon avis, est beaucoup plus générationnelle, parce que quand on regarde la façon dont le Web est utilisé, notamment sur le Web 3, dans ce qu'on appelle la crypto parfois, c'est aussi une façon pour une certaine génération, la génération Z, de se dire... vous avez construit un univers qui ne nous convient pas, un système financier qui finance cet univers, ce monde qui ne nous convient pas, on va construire notre propre utopie. Et donc, d'une certaine manière, ce qui est très intéressant, c'est que historiquement, la vision la plus crédible de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est William Gibson qui l'a écrite dans un livre culte qui s'appelle Le Neuromancien, qui a été un peu le fer de lance de ce qu'on appelait le mouvement cyberpunk. Et le problème du monde cyberpunk, c'est que c'est invendable, c'est une dystopie où les entreprises contrôlent le monde, seuls les hackers peuvent éventuellement nous sauver. Et évidemment, ça, c'était pas vendable. Et donc, dans les années 90, on a eu un changement complet sur la question du cyberespace. Et on a dit, en fait, le cyberespace, c'est cette nouvelle espace cool qui s'appelle l'Internet, dans lequel on va construire des startups. On a créé ce qu'on appelait la techno-utopie. Et puis, progressivement, évidemment, ben, cette techno-utopie, on a été beaucoup à y croire, hein, moi le premier.
Ouais, c'est ça.
Et aujourd'hui, bah, tu te rends compte qu'on a en fait laissé un certain nombre de monopoles se construire, bien plus puissants que ce qu'était Microsoft dans les années 80. Pour ceux qui se rappellent que Microsoft avait quasiment la domination des ordinateurs de bureau. Là, on a 5-6 sociétés, si on en prend une chinoise, qui ont la domination totale de nos vies numériques. Et ça, c'est effectivement un problème.
Et en fait, juste pour rappel, que tu ne le dis pas de manière assez humble, mais en fait, tu étais un des plus grands entrepreneurs français à ce moment-là, parce que NetVibe, ça a été un succès mondial. Et pour ceux qui ne connaissent pas, forcément, c'est qui n'étaient pas là, en fait, tout simplement, à ce moment-là. Ça a été vraiment une révolution. Et donc, tu as suivi de près, et donc, tu es extrêmement proche aussi de tout ce qui construit. Enfin, toutes les personnes qui ont construit ce web dont on parle, que ce soit Marissa Mayer, etc. Donc, tu connais beaucoup, beaucoup de gens. T'as vraiment été au cœur, je pense, de ce web réinventé, le web 2, donc le web social.
Absolument. C'était drôle parce qu'en fait, on a eu... la première fois que j'ai rencontré Mark Zuckerberg, c'était à cette époque, 2005-2006. La première fois qu'on se voit, en fait, il m'a montré sa page. Il était utilisateur, Kevin Rose. On avait une chance, c'est qu'on avait un produit assez simple. Et ce qui était fascinant, d'ailleurs, à l'époque, c'est qu'on était dans une forme d'écosystème. D'ailleurs, on avait appelé notre plateforme, à l'époque, écosystème. C'était pas un terme trop utilisé à l'époque, en se disant que ce qu'on faisait, on faisait une des briques, quelqu'un d'autre faisait une autre brique. Et en fait, on s'interconnectait et tous ensemble, on construisait quelque chose de nouveau. Là, on est dans un monde vraiment différent, c'est qu'on a quelques sociétés qui disent « nous, on fait tout ». C'est nous qui faisons votre mail, c'est nous qui faisons votre vidéo, vos chats, c'est nous qui allons analyser votre santé, c'est nous qui allons faire ci et ça et ça. Et en fait, à la fin, on n'a plus véritablement de diversité culturelle, parce que je crois beaucoup que l'Internet est quelque chose d'intimement culturel, mais une vision très homogène où pendant des années, quand tu prends par exemple Gmail, c'est pensé uniquement pour la productivité. Maintenant, ils ont rajouté les outils de visioconférence, parce qu'évidemment, avec la pandémie. Et on est toujours dans la logique de la productivité, comment faire plus. Et d'une certaine manière, au moment où on a besoin de résilience et d'une certaine, de retrouver son intimité propre, on est face à des outils qui nous ont, qui extraient de notre cerveau les données et surtout qui extraient notre énergie vitale.
Alors, avant d'aller là, parce que j'aimerais bien qu'on revienne sur Facebook et donc la galaxie de Facebook, donc de Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram et WhatsApp, il y a eu pas mal. Donc moi, en tout cas, j'ai été un fervent défenseur pendant des années, avec quand même, tu vois, une prise de conscience, tu vois, typiquement quand les pages de fans sont arrivées, ou tu vois, bien sûr, on a vu les algorithmes et ce que ça pouvait avoir comme impact. Est-ce que tu pourrais revenir sur les différents problèmes que Facebook amène? Là, je focus sur Facebook parce que, et après, on ira sur d'autres plateformes, typiquement Google, et puis Twitter, et sans doute les autres. Mais j'aimerais bien commencer par Facebook parce que c'est quand même, enfin, Meta, du coup, maintenant, c'est quand même des outils qu'on utilise au quotidien, pas tant Facebook qu'Instagram, mais pour ceux qui nous écoutent, j'imagine, et WhatsApp, mais c'est quand même des plateformes qu'on utilise au quotidien, moi y compris, évidemment.
Ben, bon, moi, je suis pas non plus l'expert de Facebook. Non, bon, mais... il se trouve que je suis toujours un peu gêné aussi parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais à titre personnel qui ont construit ça et donc j'ai beaucoup discuté avec eux de plein de sujets. Donc, il y a des choses qui restent évidemment des conversations privées. Enfin, je crois encore à cela. mais fondamentalement que Facebook, c'est un peu la société qui a, bon, au départ, qui s'est construit comme un réseau social pour les universités. Je pense pas que Zuck avait une bonne idée s'est entouré de gens qui avaient de très très bonnes idées, notamment le newsfeed. Mais d'une certaine manière, Facebook est une plateforme qui a dû évoluer à plusieurs reprises, ne serait-ce que pour survivre. Au tout départ, il faut le rappeler, la société qui était la plus connue dans le monde des réseaux sociaux, c'était MySpace. Mmh. Et MySpace avait une vision assez simple, c'est tu crées un pseudo, tu avais ta page de profil. C'était assez proche finalement de la première génération là de page perso type GeoCities, tu sais, Lycos, tout ça, où en gros tu faisais ton
copain
truc.
D'avant.
Voilà. Sauf que au lieu de coder toi-même ton HTML, tu avais une sorte de template et tu pouvais mettre ta musique, ton art. Enfin, c'était assez drôle. Et puis ça a créé un style, une stylistique visuelle un peu spécifique. Et d'une certaine manière, le pionnier, le véritable pionnier qui a été l'inspirateur de Facebook s'appelle Cyworld en Corée. C'était le premier réseau social, à ma connaissance, qui proposait aux gens de s'inscrire avec leur véritable identité et donc de devenir une forme d'annuaire. Mmh. Dès que Facebook a commencé à sortir des universités, hein, je crois que c'est là à peu près que chacun d'entre nous on a commencé à vouloir avoir des invitations pour entrer sur Facebook. Très rapidement, en fait, je crois que la compréhension qu'a eu Mark est en fait quelqu'un d'assez très stratège. Hein. Son livre préféré, c'est La Stratégie Ender, qui est un livre de science-fiction remarquable qui rentre dans le cerveau d'un petit génie qui défend la planète Terre contre une invasion extraterrestre, qui est un livre incroyable parce que tu rentres dans la tête d'un génie et tu rentres dans sa façon de penser à plusieurs coups et il te faut toujours, tu sais, plusieurs pages, plusieurs chapitres avant de comprendre les décisions. Ben là, c'est un peu la même chose avec Zuck, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours la capacité d'anticiper. Et la première des choses qu'il a compris, c'est que s'il connectait les gens viendraient que de manière parcimonieuse, puisque finalement tu viens voir les gens, tu regardes leur profil, mais bon, c'est intéressant, mais ça ne crée pas véritablement d'adhésion, ça devient une sorte de page jaune, un annuaire. Et donc le seul moyen de rendre ça plus sexy, c'était l'idée de créer un concept qui a d'ailleurs été inventé par la créatrice de Yahoo, hein, Katharina Feig, ce qu'on appelle l'activity feed sur le site Flickr, qui est un site de photos qui, je crois, existe toujours, mais bon, malheureusement plus autant qu'à l'époque. Elle avait dit telle personne a liké telle photo, telle personne a fait ça, et donc en fait on était capable de traquer l'activité d'un utilisateur. Et donc pour créer cette activity feed, il fallait évidemment construire ce qu'allait devenir un newsfeed, qui était en fait la somme des activity feeds. Et pour cela, il fallait des nouveaux contenus. Il fallait donc que les gens produisent des contenus. Donc, une des premières choses qu'on a faites, c'est j'ai changé mon image de profil. Et donc, évidemment, ben, quand tu regardais tes amis, « Ah, c'est quoi sa nouvelle image de profil ?» Et au départ, les gens avaient des images de profil très corporate. En fait, c'était Facebook, c'est les photos de classe. Les gens ont commencé à se mettre en scène. Et donc, soudain, ça voulait dire que les gens commençaient à changer leurs photos plusieurs fois. Et donc, il a fallu devenir un service de photos. Et puis ensuite, on s'est dit, ben, pourquoi pas créer des photos et dire que telle personne a posté des photos. Mais en même temps, il y avait d'autres services qui faisaient ça, mais ce qu'il a compris très tôt, c'est que l'intégration des services au sein du même produit allait avoir une force incroyable, et donc ils ont construit un activity feed qui est devenu progressivement un news feed des gens. Et puis il a racheté une petite boîte qui s'appelait FriendFeed, qui était fait par deux génies, dont un des deux avait chez Google avait créé le. On dit que c'est lui qui a trouvé le terme la Do No Evil. Il a travaillé aussi, je crois, sur Gmail. Et il a été une des personnes clés pour le développement d'AdSense. Donc, tu vois, c'est vraiment la personne qui était ce qu'on appelle aux US le 10X engineer qui a fait. Et donc, en rachetant ça, il a eu la capacité donc de FriendFeed, c'était un outil qui mélangeait tous les flux de sociaux, les activités sociales qu'on avait sur tel réseau, tel réseau, tel réseau, et on les mettait en un. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que le flux social, c'est-à-dire cette idée d'arriver dans un endroit où tu as un flux social, donc qui n'est pas un flux de... À l'époque, on ne parle pas de news ou de choses comme ça. C'est juste suivre l'activité de tes amis. Ça devient un sujet critique parce qu'évidemment, les gens reviennent tous les jours. Parce que tous les jours, les gens font des choses. Tous les jours, tu as un profil. Tous les jours, tu as une action. Tous les jours, tu as une photo. Et donc, ça devient un outil extrêmement intéressant. Et à ce moment-là, Google, qui à mon avis avait assez peur de Facebook, ou qui avait l'impression, parce qu'il faut se rappeler que dans le contexte de 2005-2007, le social, c'était le nouvel Eldorado. Donc tout le monde devait être social. Donc LinkedIn s'est mis à faire son activity feed. Enfin, tout le monde a commencé à faire un peu la même chose. Et Google a dit, on va faire Google Plus parce que si on fait pas ça, Facebook risque de devenir un acteur important parce que aussi le modèle de Google, c'est la recherche. Quand ils ont acheté YouTube et quand ils achètent des entreprises, ils les achètent aussi dans cette logique de se dire, c'est le cas, hein, YouTube est devenu le premier endroit où on cherche des vidéos. Donc, ça reste dans le scope de Google. Et à un moment donné, les gens auraient envie de chercher des informations. Et ça, il faut bien comprendre, des informations qui n'existent pas sur Google parce que c'est pas public. Elles sont ce que nous on faisait, ça se faisait à l'intérieur de Facebook. Et donc la recherche doit se faire à l'intérieur de Facebook. Et donc partant de là, cette concurrence. Alors évidemment, Google n'a pas réussi à faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Facebook a compris en fait que en devenant un flux social, un activity feed, ils allaient ensuite lorgner du côté de Twitter. Ils se sont dit, si Twitter fait des choses avec les médias et les marques, on va intégrer les marques. Et tout le problème, à mon avis, de Facebook vient du moment où les utilisateurs avaient la prédominance et puis soudain, les marques qui sont évidemment volontaires, et ça, c'est ce que toi, tu connais mieux que moi, c'est-à-dire comment les marques payent pour être visibles et le ratio entre ce qu'elles payent et leur retour en termes de fans, on appelait ça des fans à l'époque, des likes et tout ça. Donc, on a eu un maelstrom. Mais à un moment donné, et c'est la deuxième partie de Facebook, il y a un espèce de comète qui a tout détruit sur son passage, qui est l'iPhone. Et là, ça devient existentiel pour Facebook. Apple pourrait contrôler toute la plateforme. Google a lancé Android pour les mêmes raisons. C'est qu'ils ont compris, en gros, quand ils ont vu, Eric Schmidt a vu chez Apple que l'iPhone allait devenir un outil, l'outil que tout le monde allait utiliser. Ils se sont dit, on va essayer de faire un deal avec Apple. Ils l'ont toujours, d'ailleurs. Je crois que ça leur coûte plusieurs dizaines de milliards par an. Mais surtout, il faut qu'on fasse notre téléphone parce que si Apple un jour nous dit on veut plus travailler avec vous, on est mort. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait Android, c'est pour ça qu'ils ont lancé ça. Et Facebook se retrouve là en disant Apple fait son truc, Google fait son truc. Donc, ils ont tenté de faire un téléphone. Et ça n'a pas marché parce qu'en même temps, il fallait qu'ils s'introduisent en bourse, ils n'avaient pas assez d'argent. Ça restait une boîte modeste à l'époque. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on doit devenir la couche sociale. Et donc, là où ils ont, à mon avis, extrêmement bien joué, c'est qu'ils ont fait des partenariats et avec Google, et avec Android et iOS pour devenir la layer sociale. Et à partir de là, une des choses qui a également été extrêmement bien exécutée chez eux, c'est d'utiliser cette idée de Facebook Connect. Tu vas te connecter avec Facebook sur les autres applications. Ce qui fait que soudain, t'es un peu pris en sandwich entre Apple et Google, mais tu te dis, je peux pas être le fromage parce qu'il y a plein de gens qui aiment le burger sans fromage. Donc il faut que je sois la viande, sinon je n'existe plus. Tu vois, sinon c'est plus un burger. Et donc ils ont d'une certaine manière, ce qu'ils ont réussi à faire de manière incroyable, c'est ça. Et puis ensuite, évidemment, l'autre coup de génie, c'est d'acheter Instagram. 1 milliard à l'époque, qui à mon avis vaut la moitié des revenus aujourd'hui de Facebook, donc c'est quand même le deal du siècle, et d'avoir anticipé que les gens allaient rester sur leur téléphone tout le temps, et donc de trouver une manière de les distraire ou de les faire venir sans avoir à produire le moindre contenu, en laissant les utilisateurs le faire.
Et d'ailleurs, merci beaucoup pour cette rétrospective, parce que je pense que ça donne énormément de richesse, parce que la très grande majorité des gens qui écoutent, je pense, n'ont absolument pas ce recul sur ni Facebook, ni Google, qui sont des outils qu'on utilise au quotidien. Moi, il me semblait que le newsfeed avait été lancé par Facebook quand ils avaient voulu racheter Twitter et que le fondateur de Twitter avait refusé le rachat. Je sais pas si, mais peut-être que c'est une erreur de ma part, en fait.
Non, c'est possible. Je crois qu'il y a eu plein de tentatives. D'ailleurs, la personne maintenant qui est en charge du métaverse, Buzz, était à l'origine aussi du newsfeed. J'avais un autre copain qui a travaillé là-dessus aussi sur le mobile. Il y a eu plein de tentatives diverses, mais ce qui a manqué en fait au départ, c'est il y a eu plusieurs newsfeeds. Il y a eu un newsfeed assez simpliste. Il y a eu le newsfeed avec toutes les activités. Je crois qu'ils avaient fait une grande conférence. Vous avez demandé à Spotify, tu sais, de s'intégrer sur le newsfeed. Et là, soudain, tu voyais les goûts musicaux de tous tes amis, No Comment, qui apparaissaient. Après, ils ont arrêté parce qu'ils se sont dit, en fait, les gens ont des notifications toutes les 10 minutes. T'as Foursquare qui s'était construit autour des données d'activité et localisation. Et je pense que Facebook a dû tenter d'acheter toutes ces entreprises parce qu'à un moment donné, ils avaient compris qu'ils devenaient le liant entre plein d'actions que les gens font, que ce soit où je vais, ce que je fais, ce que je photographie, mes intentions, et de collecter toutes ces données autour d'une sorte de flux qui est devenu en fait un monstre et qui, à mon avis, on pourra en parler tout à l'heure, mais dont ils ont, à mon avis, perdu le contrôle.
Et ouais, et alors c'est là où on va en venir, parce que évidemment, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont vu ce documentaire qui s'appelle Social Dilemma en français, je sais plus exactement quel est le titre, sur Netflix, sur une plateforme de Netflix, sur Facebook. Et en fait, il y a plein de problèmes qui sont liés aux réseaux sociaux. Le problème, c'est évidemment le temps d'attention qu'ils ont complètement mangé, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on passe un nombre d'heures incalculable sur son téléphone, quitte à détruire les relations de couple, les relations qu'on a dans la vraie vie, parce qu'on va chercher quelque chose à l'extérieur. Ils ont créé cette dose d'ocytocine dans ton cerveau à travers les likes et les commentaires et les nombres de fans et tu vois la validation bleue, etc. Il y a des soucis avec la confiance en elle, en particulier des femmes, à cause des filtres sur Instagram. Il y a l'impact sur les médias, il y a eu toute la problématique sur la manipulation politique, il y a tu vois tout ce qui est ressorti avec Francis O'Hagan, et on pourra en parler aussi. J'aimerais bien que tu nous décrives tous ces problèmes qui sont liés aux réseaux sociaux. Je sais que toi, vraiment le cœur de ton travail en ce moment, c'est ce dont on avait parlé au tout début, qui était le slow web. Est-ce que tu veux nous refaire cette histoire et nous réexpliquer quels sont pas tous les soucis. J'ai bien saisi que toi, t'es pas l'expert Facebook entre guillemets, et c'est certainement pas l'idée, mais tu connais quand même particulièrement bien le sujet.
Oui, ben en fait, ce que tu dis d'une certaine manière, bon, déjà on en avait parlé il y a un petit moment. J'avais écrit bien là-dessus il y a 6 ans, et en fait, en y repensant là, quand tu m'as proposé, fait l'amitié de revenir, je me suis dit est-ce que je pense la même chose qu'il y a 6 ans. Et en fait, j'ai un peu approfondi ma compréhension des choses, et je trouve que ce qui s'est passé récemment, parce qu'il y a plein de choses, et à mon avis, toutes les choses ne sont pas à mettre dans le même panier. C'est déjà une première chose qui me semble assez évidente, c'est que Facebook, c'est quoi maintenant, 2,7 milliards d'utilisateurs?
Je ne connais pas les chiffres.
Je crois que c'est peut-être même plus maintenant. Déjà, Facebook est gigantesque, et on a un problème, c'est aucun pays ne sait gérer ou contrôler les même la Chine qui essaye des populations. Ben, il suffit de voir comment ça s'est passé pendant la pandémie. Tu n'arrives pas à avoir d'opinion claire, de filtrer, d'orchestrer. Donc quand tu as un nombre d'utilisateurs aussi important, à mon avis, déjà, tu as des problèmes de taille. C'est-à-dire que est-ce que tu as assez de modérateurs? Je te parle même pas des langues, parce que ça, c'est un autre problème, parce qu'on a découvert aussi qu'il y a des endroits où il y a eu des coups d'État, des génocides. Il n'avait personne qui parlait la langue. Donc, Facebook tournait comme une machine.
En roue libre.
En roue libre, totalement. Donc, tu as un problème de taille qui est à mon avis, le premier. Le deuxième, c'est à mon avis, c'est que le véritable et unique super pouvoir de Facebook, et quand je parle de Facebook, je parle évidemment d'Instagram et de WhatsApp.
Oui, la galaxie.
La galaxie, donc Meta, désormais, c'est leur véritable super pouvoir, c'est de nous faire venir plusieurs fois par jour sur leur plateforme. Qui n'a pas regardé plusieurs fois par jour Instagram, ben ça m'arrive de l'enlever parce qu'il y a des moments où j'ai pas envie de passer trop. Mais c'est vrai qu'on, par curiosité, par réflexe, par habitude, ou même parce qu'on a envie de se dire tiens qu'est-ce qui se passe en ce moment, ça c'est on le fait. Et donc d'une certaine manière la répétition, ça tu sais ça aussi bien que moi, c'est quand même la base du succès publicitaire, hein, répéter. Et donc, d'une certaine manière, ce que je crois, c'est que la capacité de revenir plusieurs fois et cette capacité d'exposer des gens à des contenus est, à mon avis, plus, plus efficace que tous les outils d'algorithmique et de targeting. Et ce que je crois, c'est que, en fait, les problèmes que l'on voit sont plus liés aux algorithmes et les succès sont plus liés à cette capacité de répétition. Voilà.
Et du coup, effectivement, moi je faisais référence. Alors, tu as fait un petit peu référence à ce qui est sorti avec Francis Hogan, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de modérateur, même en langue française, finalement, il y en a très peu, versus d'autres langues comme la langue anglaise, évidemment. Donc, en fait, il n'y a pas grand monde, finalement, qui modère ce qui se passe sur les plateformes. Mais surtout, ils se sont rendus compte aussi qu'ils laissaient des commentaires haineux de manière volontaire parce que c'est ce qui génère le plus d'interactions et donc de plus de revenus publicitaires chez eux. Et il y a aussi ce problème-là, non ?
Ben, après, j'ai toujours un peu de mal à, parce que je pense pas que les gens chez Facebook aient fondamentalement envie que l'espace devienne un espace toxique. Je pense, par contre, que la manière dont l'entreprise a été organisée, et ça, c'est très, très bien expliqué par Frances Haugen, mais c'était très, très bien expliqué par d'autres gens, fait que la situation dans laquelle on est liée à ça. Alors, très brièvement, pour expliquer comment ça fonctionne, c'est que tu as, chez Facebook, pour tous les produits, trois types d'équipes. La première, c'est l'équipe produit. Et donc, l'objectif de l'équipe produit, ce qu'on appelle en anglais l'incentive, et donc les bonus, et donc les promotions, etc., etc., est lié à cette idée que tu dois faire grandir le produit le plus vite possible. Mmh. Et donc, ton unique métrique, c'est ce qu'on appelle la « growth ». Et tu as des gens qui ont fait ça de manière absolument incroyable, puisque je pense que Facebook est connu comme un cas d'école. On m'a raconté que la majorité des Norvégiens étaient sur Facebook en moins d'une demi-journée. Tu vois, donc on parle beaucoup de Clubhouse maintenant, mais Facebook, ça a été le cas d'école absolu en termes de growth.
Bien sûr.
Donc ça, c'est vraiment la première équipe. Ensuite, il y a une deuxième équipe qui est l'équipe de monétisation. Et évidemment, comme son nom l'indique, son objectif exclusif, c'est de maximiser l'espace de vente, de maximiser les revenus, et donc de voir comment on peut mettre le plus de pubs possible. En général, il y a des tensions entre le produit et la monétisation, parce que si tu mets trop de pubs, ça heurte la capacité de croissance, et en même temps... Il y a un sujet qui est que le produit est souvent fait par des ingénieurs et pendant longtemps, et je ne crois que ce n'est plus trop le cas maintenant, la monétisation était faite aussi par des ingénieurs qui devaient construire des outils techniques de monétisation. Ça a été d'ailleurs un des problèmes pendant la période qui était liée à la campagne électorale, puisque au départ, un certain nombre de choses, comme les articles, ce qu'on appelait le top view en termes d'articles, étaient faits manuellement par une équipe de gens qui étaient des journalistes. Et puis, suite à une critique du Parti républicain ou de certains conservateurs, ils ont remplacé ça par des algorithmes. Et donc, on n'avait plus aucune moyen de vérifier humainement ce qui était mis en top de Facebook quand arrive, c'est ce qu'on appelle les trending topics de Facebook. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça s'appelle pas trending topics. Et donc, on a, à ce moment-là, effectivement, des news qui monétisent très bien, qui sont très visibles, qui se viralisent très fort. mais qui était totalement bidonné. Et puis à côté de ça, tu as une troisième équipe très modeste qui s'appelle la Integrity Team, et donc dont le rôle est de s'assurer que le produit n'a pas de problème. Sauf que elle arrive à la fin. Et donc, une fois qu'on a décidé comment faire pour croître le plus vite possible, comment faire pour monétiser cette croissance le mieux possible, arrive la cinquième roue du carrosse, qui est comment on fait pour s'assurer que le truc soit socialement, éthiquement parlant correct. Et je pense qu'il y a un vrai sujet, parce que il me semble que l'intégrité devrait faire partie du développement produit. C'est pour ça que j'aime bien parler de Slow Web, c'est que je pense que le logiciel doit être éthique par défaut et qu'on doit avoir des outils de contrôle et qu'on ne peut pas lancer des choses comme ça sur des milliards de gens sans avoir fait tout ce travail. Mais en même temps, il faut bien se dire que si Facebook fait ça et le fait pas très bien, les autres réseaux n'ont quasiment rien et n'ont même pas le dixième des choses qui sont mises en place par Facebook.
Et c'est là où ça devient flippant. Tu disais tout à l'heure que Facebook, en fait, il y a deux problèmes majeurs. C'est que un, Facebook n'a pas vraiment la maîtrise de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne comprennent même plus très bien les algorithmes, enfin la manière dont fonctionnent les algorithmes, parce qu'un algorithme se nourrit. Enfin, on va pas rentrer dans le détail ici, mais il se nourrit de la donnée qui lui est fournie. Et donc, il y en a énormément, en particulier sur Facebook, parce que tout le monde crée du contenu en permanence. Encore une fois, quand je dis Facebook, en fait, je devrais dire Meta, parce qu'effectivement, j'intègre Instagram et WhatsApp. Et puis de deux, il y a pas de gouvernement mondial, entre guillemets, qui permet de modérer. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus, et moi, je suis pas loin de penser ça, de personnes qui disent, en fait, idéalement, même si les réseaux sociaux apportent énormément de bien, c'est-à-dire qu'on a vu typiquement la révolution arabe, on a vu des gens se retrouver de manière un peu plus simple, on a vu des entreprises se construire sur les réseaux sociaux, on a vu plein de trucs super positifs, mais il y a aussi énormément de trucs négatifs, et donc il y a des gens qui disent aujourd'hui, en fait, idéalement, c'est pas non plus vraiment très possible, mais il faudrait fermer ces réseaux sociaux. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, sur avant qu'on passe aux autres réseaux, parce qu'effectivement ça me semble, enfin tu vois, c'est dans la vie, en fait le truc c'est que c'est dans la vie quotidienne, enfin c'est dans notre vie quotidienne à tous quasiment, à part pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux évidemment, mais ils sont quand même pas la majorité. En fait ils ont un poids majeur, en fait.
C'est une question hyper compliquée, parce qu'en fait il y a plusieurs sujets en un. Le premier sujet, qui à mon avis est un véritable problème, c'est la question des monopoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Facebook, on parle aussi en général des big tech, mais plus généralement, ce qui est intéressant avec Facebook et Google, et d'ailleurs en fait peut-être un peu moins Microsoft, mais les quatre des big tech, c'est-à-dire Apple, Google, Amazon et Facebook, sont dans notre intimité du matin au soir. Ils sont entrés au cœur de notre intimité, ce que j'appelle parfois l'intimité computationnelle, c'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on aime a été calculé par un algorithme, ce que l'on rêve a été calculé par un algorithme, parce que si on part du principe que notre subconscient est d'une certaine manière se remémorer les images qu'on a observées dans la journée, quel est le pourcentage de ce qu'on en a vu qui vient d'un écran et donc d'un choix algorithmique. Donc ça, c'est un premier point. C'est que on a laissé sans aucun contrôle la question de l'intimité, et ça pose des problèmes. Évidemment, tu en parlais pour les adolescentes. Avant, quand on se faisait martyriser, on pouvait rentrer à la maison et puis on pensait à autre chose. Maintenant, avec le téléphone portable, on se fait attaquer ou on se fait critiquer quasiment 24 sur 24. Et j'allais dire, l'algorithme d'Instagram qui, sans le savoir indirectement, sans le sang, sans l'odeur du sang, va en fait appuyer. Et là, la machine qui va te déprimer ou dans l'autre sens, te rendre euphorique, c'est un algorithme qui connaît toutes les techniques, puisque ton cerveau est assez facile à décrypter pour ces gens-là, puisqu'il y a énormément de neuroscientistes et de gens qui ont analysé ce que tu fais, non pas sur un an, mais aujourd'hui sur 10, voire même 13, voire 15 ans pour certaines personnes. Ça veut dire que désormais, on te connaît sur une période extrêmement longue, avec un niveau de détail que même ta famille, ton partenaire, tes amis ne connaissent pas, sans aucune réglementation. Et donc, un des sujets pour moi, c'est que la raison pour laquelle on a permis ça, c'est qu'on a en fait donné l'autorisation aux entreprises, ces entreprises, d'avoir accès à tes données personnelles. Et moi, j'ai toujours pensé que les données personnelles, et donc le big data qui déduit de ces données personnelles qui tu es et ce que tu dois faire, devrait être interdit. De la même manière que quand on prend la Déclaration des droits de l'homme, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles. Je pense que les données personnelles devraient en faire partie, et je pense que l'Europe devrait interdire l'accès à ces données. Parce que ces données donnent accès ensuite à ce qu'on appelle le micro-targeting, donc le micro-ciblage, et qu'en fait, la publicité sans le micro-ciblage et sans ses capacités de s'introduire dans ton intimité marche plutôt bien. Et qu'en fait, cette idée de dominer complètement un utilisateur en le contrôlant de A à Z est, à mon avis, toxique. Évidemment, quand tu veux déprimer un consommateur parce qu'il va acheter plus de voyages ou le rendre euphorique, ce même consommateur est un citoyen, et donc tout ce que tu fais sur son état psychique se traduit aussi par rapport à son vote. On l'a vu évidemment à plein d'endroits où en fait c'était les élections de la colère. Tu sais, il y a toujours un moment où quelqu'un en face de toi est tellement en colère qu'il ne t'écoute plus. Tu peux lui dire ce que tu veux, il ne t'écoute pas. Et le téléphone peut être utilisé par certains groupes politiques pour rendre les gens en colère. Et surtout, tu peux les rendre en colère à n'importe quel moment. Tu peux te retrouver dans une situation où tu te dis qu'un parent va hurler à ses enfants, voire pire, simplement parce qu'il vient de voir quelque chose sur son téléphone qui l'a rendu, qui l'a mis en colère. Et donc, tu as des impacts sur l'intimité qui, à mon avis, ça, c'est la priorité. Après, d'un point de vue économique, la question, c'est toujours la même. Comment on régule une entité économique monopolistique, est-ce qu'on la casse en plusieurs acteurs ou est-ce qu'on fait une séparation fonctionnelle? Par exemple, on sépare la régie de Facebook, de Google et d'Amazon de leur business classique, de façon à créer, tu vois, des appels d'air. Ça, c'est un vrai casse-tête parce que la loi est complexe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ces entreprises sont très malines. Elles ont aussi construit leur business de façon à toujours être dans une zone grise, mais jamais totalement dans une zone où on pourrait leur reprocher telle ou telle chose.
Ouais, effectivement. Et en fait, ça, c'est aussi ce truc. Et est-ce que c'est... Enfin, tu dirais que c'est lié au fait qu'il n'y ait pas de gouvernance mondiale sur le sujet, ou alors ça devrait passer sous juridiction, enfin logiquement c'est sous juridiction américaine, mais est-ce que c'est des jeux de lobby, enfin c'est tellement complexe que tu sais même pas exactement, enfin moi en tout cas je vois pas très bien par quelle boule prendre. Effectivement, il y a cette idée de démanteler le réseau en plusieurs morceaux, mais je le vois pas venir non plus en fait.
Ben, c'est compliqué parce que, bon, déjà, l'Internet, il y avait une note d'un think tank assez conservateur juste en 2001 qui s'appelle le Cato, CATO Institute, qui a parlé à l'époque de ce qu'ils appelaient à l'époque le Splinternet, cette idée que l'Internet, qui est fondamentalement inventé et contrôlé par les États-Unis, puisque les master keys restent sous contrôle américain, donc, et de toute façon, dans leur tête, l'Internet est un espace américain. Qu'on soit en Europe ou ailleurs.
en Chine.
Mais justement, la Chine a compris ça et à un moment donné, elle a dit on se sépare de ce réseau. Donc, on a créé un réseau spécifique. La Russie a fait la même chose. Et ensuite, l'Inde a fait la même chose, ce qui est d'ailleurs obligé désormais des entreprises de l'Internet de se dire il y a des espaces où je peux aller et des espaces où je ne peux pas aller. Par exemple, Facebook ne peut pas aller en Chine, ils sont interdits. Mais en même temps, Apple a dit, nous, on va en Chine et on accepte les conditions que le gouvernement chinois nous demande, qui sont pas toujours des conditions très honorables. Et quand Apple dit, on va en Russie, et que Poutine leur dit, il n'y a plus d'application pour Navalny, l'opposant russe, sur l'App Store, on choisit en fait les règles avec des pays avec lesquels on veut faire du business. Et aujourd'hui, ce que tu vois, c'est que l'Inde veut faire la même chose, le Brésil réfléchit à la même chose, mais l'Europe, d'une certaine manière, croit encore à cette idée d'un espace ouvert, et donc, d'une certaine manière, a été la grande perdante. Parce qu'on a tous les désavantages des réseaux sociaux, aucune capacité de contrôle. Mais c'est un peu en train de changer avec les nouveaux projets de loi, tu sais, que sont le DMA et le DSA, qui sont des projets qui vont permettre à l'Europe d'avoir un début de contrôle. Mais là, après, on a un autre problème qui est beaucoup plus existentiel, c'est là, on essaye de régler les conséquences et on ne s'intéresse jamais aux causes. Et pour moi, une des causes de tout cela, c'est que pour moi, le Facebook et d'une certaine manière d'autres réseaux sociaux, mais surtout Facebook, n'est pas forcément un outil qui se nourrit avec des algorithmes et de la donnée, mais c'est véritablement un monstre cybernétique. C'est-à-dire que la cybernétique, c'est cette idée que l'homme peut contrôler la machine grâce à des signaux, mais comme le Norbert Wiener, qui était un peu le fondateur de cette discipline dans les années 50, a écrit un livre fantastique qui s'appelle « Cybernétique et société » en français, mais qui s'appelle « Gods and Golem ». Golem, cette créature mythique de la culture juive, ce robot, cette machine qui se retourne contre l'homme. Et il expliquait que de la même manière que l'homme peut contrôler grâce à des stimuli, des connexions, la machine avec... la machine peut faire l'inverse. Et donc, tu as cette relation symbiotique qui se construit. Et donc, d'une certaine manière, tous nos téléphones sont des antennes et tu as une espèce de monstre vivant, d'une certaine manière, qui se dit, il y a plein de gens qui aiment les chiens, tel type de race de chiens, c'est intéressant. Cette information me remonte, qu'est-ce que je fais ? Instantanément, je projette à des dizaines de millions de personnes des images de chiens pour voir ce que ça donne. Et au fur et à mesure, en fait, on influe. Et donc, en fait, l'activité humaine, ce que nous envoyons en retour, influe cette sorte de machine presque vivante qui, en permanence, en fait, réagit. Et donc, d'une certaine manière, quand tu as trouvé le moyen de hacker cette machine, c'est-à-dire de lui faire amplifier des choses nauséabondes, ce qui s'est passé, on l'a vu ces dernières années, ça marche très bien et ça marche tellement bien que quand Facebook essaye de contrôler ça, il n'y arrive pas. Et d'une certaine manière, ça casse aussi l'idée, parce que tu vois, quand ils vont voir un publicitaire, ils leur disent, vous inquiétez pas, on est capable de tout mesurer au clic près. Et dès que le congrès leur demande, alors, pouvez-vous nous dire ce qu'on fait telle et telle personne avant d'aller saccager le congrès? Ils disent, c'est compliqué, il faut qu'on retrouve les data, les bases de données, donc c'est dingue.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une part d'esbrouf et il y a une part aussi de difficulté à contrôler parce qu'on a construit quelque chose qui est tellement complexe qu'il en est presque vivant et qui réagit essentiellement aux activités des gens et pas uniquement, tu vois, avec un système pensé où on dit, tiens, à tel moment, on va faire ça, on va envoyer ça,
bien
ça,
sûr,
comme ça.
Sûr.
Donc, il y a une part d'irrationnel. Et ça, pour réguler quelque chose d'irrationnel, c'est, à mon avis, assez complexe.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que, évidemment, les personnes qui bossent chez Facebook ne sont pas des diables en puissance qui essayent de faire le mal. C'est vraiment pas ça. Mais par contre, ils ont construit une bête qui ressemble exactement, et tu as commencé cette conversation là-dessus, à ce livre qui était extrêmement dystopique. Finalement, on arrive dans cette situation.
Totalement. Et puis, il y a un deuxième livre qui est sorti cyberpunk des années après, qui s'appelle Snow Crash, le samouraï virtuel en français, et qui décrivait un univers, pareil, une dystopie, où le seul moyen de s'échapper de la vie absolument exécrable que l'on vivait dans un univers déglingué, c'était de se connecter à un service qui s'appelait le métaverse.
C'est justement, parlons des métaverses. Je suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde sache précisément ce que c'est qu'un métaverse. Ça peut peut-être valoir le coup d'expliquer. Enfin, je peux l'expliquer en deux secondes. En gros, c'est un monde virtuel, un petit peu comme on peut le voir dans le film de Spielberg, Ready Player One. Donc, c'est un monde virtuel. En fait, l'idée, c'est de se dire que le monde dans lequel on vit, il est tellement pourri, il devient tellement pourri qu'en fait on va dans un monde virtuel avoir des habits, faire avoir une activité sociale depuis son ordinateur en réalité virtuelle. En gros, c'est un peu ça.
Oui, absolument. C'est surtout par rapport à la réalité virtuelle qui est une réalité simulée, que c'est comme un programme que tu lances et puis tu vas dans ce programme. L'intérêt du métaverse, c'est que c'est un univers persistant, c'est-à-dire quand tu pars, le monde continue de tourner. Et temps réel où plusieurs personnes peuvent interagir. Tu as plein de services qui sont des métaverses. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, Facebook n'a aucun accès au téléphone. Ils sont obligés de passer par Apple et par Google. Ça leur pose beaucoup de problèmes puisque Apple a dit que maintenant, ils allaient changer les règles de tracking.
Et les ont changés.
Et les voilà. Et donc ils ont rendu aveugle, c'est-à-dire que cette fameuse émetteur, cette fameuse antenne qui est le téléphone, elle est un peu brouillée aujourd'hui. Donc c'est beaucoup moins fiable. Donc ça va créer, à mon avis, beaucoup de problèmes. Et je pense qu'aussi le fait que tout le monde soit chez soi, à ne rien acheter pendant 2 ans, ça a dû beaucoup travailler les algorithmes, pas dans un sens qu'ils voulaient. Et donc le seul domaine dans lequel Zuck a accès à tout end-to-end, c'est-à-dire il possède le hardware, le software et la monétisation, c'est la réalité virtuelle, puisqu'ils ont une société qui s'appelle Oculus, qui construit des casques, et que d'ailleurs je crois qu'il va s'appeler Meta, si j'ai bien compris. Et donc ils peuvent très bien dire, vous achetez le casque, vous êtes dans l'OS de Facebook et dans le monde de Facebook, et donc on n'a plus besoin de demander à Apple et à Google. Mais en même temps, Apple et Google et Snap et plein d'autres essayent de se dire, ben nous, on va faire des lunettes de réalité augmentée. Donc, on sent que tout le monde est en train de travailler là-dessus. Moi, je reste un peu sceptique sur la réalisation de tout ça pour plein de raisons dont on pourra parler, si tu veux.
Et justement, on est extrêmement loin de ce que toi tu défends qu'est le slow web. Tu disais tout à l'heure, je me posais la question de savoir si ma pensée avait évolué en 6 ans. Toi, ta pensée, t'en es où dans ta réflexion autour de, bon, peut-être définir ce que c'est que le slow web, mais t'en es où dans ta réflexion autour de des réseaux, enfin du web de manière générale, pas que des réseaux sociaux, parce que maintenant on arrive le web 3. J'ai fait un épisode sur le sujet, donc pour les personnes qui souhaitent l'écouter, je pense que c'est le 198. Et y a le web 3 qui arrive, mais il y a aussi pas mal de choses qui se passent. Toi, t'en es où en fait, tu dans ta réflexion?
Ma réflexion fondamentale n'a pas changé. Pour moi, pour moi, l'informatique est quelque chose de culturel. C'est une vision du monde. Dans les années 60, personne ne voulait travailler en informatique, même les plus brillants, pour une seule raison. C'est que travailler à l'époque en informatique, ça voulait dire travailler sur les machines qui étaient en train de s'occuper de l'armée pendant la guerre du Vietnam. C'est-à-dire c'était d'une certaine manière une forme de soutenir la guerre du Vietnam. Et puis, t'as un type assez incroyable qui s'appelait Stewart Brand, qui a été à l'origine du Whole Earth Review, là, le fameux magazine que toute une génération de Silicon Valley a lu, notamment Steve Jobs, il en parle souvent, il dit « stay hungry, stay foolish », c'est dans son fameux discours, qui a commencé à s'intéresser à la cybernétique, à plein de choses, et qui a commencé à parler de l'idée d'un ordinateur individuel. Et là, c'est là qu'en fait la Silicon Valley a vraiment explosé, parce que culturellement, ça devenait intéressant de construire un outil pour améliorer les capacités des êtres humains, donc améliorer notre productivité, notre créativité, etc. Mais à côté de ça, tu avais une autre vision de l'informatique, qui était la vision de l'intelligence artificielle, c'était John McCarthy, et lui disait « la machine va remplacer l'homme ». Et donc, aujourd'hui, quand on regarde Uber, Deliveroo, ou même certains outils de Facebook, on a remplacé en fait des humains par des machines. Quand tu es livreur aujourd'hui, c'est la machine qui est ton boss, c'est pas, t'as plus de contremaître. Et y a une partie des gens qui sont fascinés par cette vision parce qu'ils se disent, ah ben, c'est fantastique, on va organiser les choses. La réalité, c'est que non, ça ne marche pas parce que dans la vie, dès que tu mets plus de 10 personnes à travailler sur un projet, même déjà quand, parfois quand tu es deux, c'est difficile de se mettre d'accord. Donc, imagine quand tu as des millions de gens à organiser, tu peux leur dire ça va être comme ça et comme ça. Et les gens vont dire, ouais, tu as raison. Donc, ça peut pas forcément fonctionner. Donc, moi, ma vision et qui a toujours été celle de tous les produits que j'ai faits, ça a toujours été comment aider les gens à s'émanciper. C'est une émancipation personnelle, émotionnelle, mais aussi, et c'est là où j'ai peut-être, je suis à contresens de plein de gens dans le monde du numérique, c'est que à cette heure où tout doit être collaboratif, où tout doit être, tu vois, en réseau, en commun, je crois beaucoup à l'idée d'une émancipation personnelle. C'est-à-dire que tant que tu ne découvres pas qui tu es et que tu n'arrives pas à construire ta culture qui t'est propre, dans un monde collaboratif, tu n'apporteras pas de valeur. Si c'est juste pour être sur un document partagé et de dire « t'as corrigé trois fautes », mais en fait, t'avais peut-être deux idées géniales, mais t'as pas osé les présenter parce que le système a été pensé de façon à ce que… Bah, c'est toujours comme ça dans les systèmes collaboratifs, t'as toujours des gens qui dominent le truc. Et tu as toujours des gens un peu plus, parfois même plus intelligents dans un coin, qui n'osent pas dire ce qu'il faut faire. Et donc, d'une certaine manière, on a construit un monde où, au lieu de construire la meilleure version de nous-mêmes, on nous a mélangés, et c'est une espèce de fight permanent. Et les réseaux sociaux et Twitter, c'est ça, hein, c'est Twitter, c'est quand même le seul endroit où tu as deux personnes qui ne se connaissent pas, qui débattent d'un sujet qu'elles ne connaissent pas et qui s'insultent. On en est arrivé là, donc il y a un vrai sujet. Donc l'idée du slow web, c'est une idée d'apaiser. Comment construire une technologie qui apaise le monde, mais qui nous apaise aussi, et donc comment reconstruire une expérience personnelle. Et ça passe par quatre choses assez simples. La première, c'est la transparence. Ce que tu vois sur le logiciel à l'écran, c'est ce que tu vois ce qui se passe vraiment. Aujourd'hui, tu le sais pas, mais tu as cliqué sur les soupes Campbell et maintenant, tu te retrouves dans les mailing lists de Trump qui va te harceler ou que tu as appuyé sur tel truc parce que tu pensais que c'était un copain qui voulait te le présenter alors qu'en fait, l'algorithme a dit « Votre ami a aussi aimé ça, il y a peut-être 3 ans d'ailleurs. Ouais. » Et donc, on vous le montre. Donc, il y a toujours tromperie, tu vois. On essaye toujours à chaque fois de te… Tu ne sais pas vraiment ce que tu as. Tu ne sais pas, par exemple, on sait que Gmail lit tes emails, mais tu ne sais rien de ça, tu ne sais pas comment ça se passe, ils n'ont jamais été transparents là-dessus. Donc la transparence, c'est la première chose. La deuxième, c'est la non-manipulation. C'est ce qu'on appelle parfois les dark patterns, c'est cette idée qu'un logiciel, en fait, va te forcer à faire des choses que tu ne voulais pas. Pendant très longtemps, je me suis forcé avec Facebook, il y avait un petit bouton rouge quand tu allais dans les contacts, en te disant, ah, si tu veux enlever ce petit bouton rouge, il faut que tu appuies. Mais si tu appuies là-dessus, ça veut dire que Facebook aspire tous tes contacts. Et donc, en fait, au lieu de te dire... voulez-vous donner vos contacts? Ils avaient construit un artefact visuel qui te donnait le sentiment qu'il y avait un problème et qu'il fallait, tu sais, comme on est habitué avec les notifications, dès qu'il y a du rouge, tu veux toujours les enlever.
Bien sûr.
Sinon, t'as l'impression d'être en stress. Et donc, on a joué là-dessus. Et cette manipulation, ce qu'on appelle parfois le design de persuasion, c'est quelque chose qui devrait être, à mon avis, rendu illégal ou en tout cas, on devrait être capable d'attaquer les entreprises qui abusent de notre crédulité, mais qui est aussi une crédulité du fait que quand on est un utilisateur, on croit le développeur comme un enfant et qui écoute son père qui va lui dire fais ça. Donc c'est une responsabilité qu'il y a. La troisième, et ça c'est très important, c'est le droit à une vie privée. C'est pas le respect des données privées. Ça pour moi, ça devrait être par défaut. C'est le droit d'avoir une vie incognito. Si t'as envie d'écouter Britney Spears 25 fois dans ta douche tous les matins, t'as pas envie que ton Deezer ou ton Spotify ou je ne sais quoi analyse ce que t'as fait et donc va changer entièrement ta playlist parce que à un moment donné t'as ce petit moment où t'es je ne parle pas pour moi mais
mais
et encore il faudrait que je regarde dans les remixes de Britney Spears, il doit peut-être en avoir quelques-uns d'écoutables mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné c'est toi et toi-même, c'est pas toi et il y a quelqu'un d'autre qui avec un microscope a analysé ce que tu fais parce qu'on n'est pas la même personne quand on est épié, et on n'est pas la même personne quand on est libre. C'est-à-dire qu'on est libre de toute contrainte. Quand tu lis un livre, il n'y a personne qui regarde à quelle page tu t'es arrêté.
Et je suis totalement d'accord avec toi. Tu disais tout à l'heure, tu sais qu'il y avait un partage des musiques que tu préférais sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook à l'époque, pour le coup, et sur la normalisation qu'ont généré les réseaux sociaux. Et effectivement, quand tu vois que, en fait, ce que tu écoutes, en fait, c'était cool, en tout cas, c'était socialement intégrant de partager ce que tu écoutais sur Facebook à l'époque. Mais du coup, t'as envie d'être cool, donc tu vas pas forcément, bon, je sais pas si Britney Spears était cool ou pas, mais après, admettons, prenons l'exemple de Britney Spears ou encore Patrick Sabatier, j'en sais rien, ou Patrick Sébastien, c'est à lui que je pensais. Je sais pas, il y a une musique qui te plaît, je sais pas, ça te rappelle un truc. Mais du coup, tu vas pas l'écouter parce qu'en fait, tes amis vont pouvoir voir que tu l'écoutes, donc du coup, tu vas te faire, tu vois, dans la vraie vie, tu vas avoir une sorte de pression sociale sur, ah ouais, putain, ce mec écoute Patrick Sébastien. Enfin, je sais pas,
mais ça va, c'est plus que ça, c'est que l'écoute de ta playlist, l'analyse de ta playlist, peut définir tes orientations politiques, peut définir ton genre, peut définir... t'as plein de gens qui, d'une certaine manière, se sont fait outer par rapport à la consommation culturelle plus que... alors que... Et la machine le sait pourquoi ? Elle le sait parce qu'elle a analysé plein d'autres gens qui ont déjà défini leur statut et qui écoutent des choses similaires. Et on se dit qu'en fait, si t'écoutes des choses similaires, tu vas probablement... être plutôt de gauche ou de droite, ou plutôt libertarien, ou plutôt ça. Alors, la machine n'a aucune idée de ce que ça veut dire, mais on s'est rendu compte que quand on travaille sur des grands nombres, on arrive à faire des prédictions qui sont plutôt correctes. Elles ne sont pas toujours correctes, mais elles sont plutôt correctes. Et donc, ça veut dire que soudain, ce que tu écoutes peut devenir un outil de recrutement vers QAnon, vers je ne sais quoi, vers tous ces... Et donc, d'une certaine manière, cette idée de vie privée, de dire « je veux », c'est un peu ce que Chrome appelle le mode incognito, même s'il n'est pas totalement incognito, c'est de dire « je veux être moi ». Et pendant ce temps-là, vous ne m'écoutez pas. Alors, je sais que vous, ça vous embête parce que vous aimeriez savoir ce que je fais, mais quand tu es chez toi, tu n'as pas demandé à Google ou à Alexa d'avoir une caméra pour te suivre. Tu as décidé que tu étais chez toi. Quand tu es dehors ou dans l'entreprise ou quand tu es en représentation dans un événement, tu es public, ce que tu vas dire est public ou ce que tu écris sur Twitter est public, mais à un moment donné, t'as ça. Et ça, c'est important parce que si on n'a pas cette part de notre vie, on ne se construit pas intellectuellement et on ne se construit pas personnellement. Tu ne peux pas vivre tout le temps sur le jugement des autres ou réfléchir dans ton intimité dans la manière dont tu ferais les choses avec si les autres te regardaient. Et puis la dernière chose qui paraît du slow web, la quatrième chose, qui paraît un peu folle, c'est le droit de pouvoir quitter un service, prendre ses données et pouvoir aller ailleurs. Aujourd'hui, on est dans une ère où quasiment tous les services auxquels j'ai souscrit depuis l'époque du web, je dois avoir encore un email Yahoo, je ne sais même pas à quoi il sert, un email, peut-être encore un Caramel, un compte Flickr, j'avais un compte Foursquare, on est tous pareils, on a eu centaines de comptes sur lesquels on a eu des choses, on a produit des choses qui avaient de la valeur à un instant T et qui aujourd'hui sont soit dans les limbes, soit... ont disparu ou tu sais même pas d'ailleurs parce que je crois que tous les emails de Yahoo ont été plus ou moins hackés, donc ça veut dire que ça a créé aussi en plus des problèmes de sécurité et donc par rapport à en ce moment je travaille on the side sur un projet depuis un petit moment qui s'appelle Polite pour Tech for Good Manners, donc la technologie avec des bonnes manières, et cette idée qui reprend un peu l'idée de ce que j'avais fait avec Netvibe et puis avec Jolie Cloud, mais dans un contexte aujourd'hui, c'est de me dire comment je peux faire pour réavoir accès à tout ce qui me représente dans le numérique, tous les endroits où j'avais des choses, où j'ai des choses, et comment pouvoir y avoir accès facilement. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un autre problème, c'est qu'on a une fragmentation de notre vie numérique qui fait qu'on est en permanence, pas en plénitude, on n'a qu'une partie des choses qui nous appartiennent. Moi, je vois que... J'ai arrêté de poster des photos sur Facebook, j'ai mis beaucoup de stories sur Instagram et sur des contenus sur d'autres services. Et j'ai mis des liens, tous les jours je poste des liens sur Twitter, enfin toi tu fais la même chose. J'aimerais bien avoir une archive de tout ça parce que, tiens, j'avais écrit un truc il y a 3 ans qui était super, je ne me rappelle plus le lien.
Ouais, effectivement.
Mais même ton bookmark, le bookmark de ton navigateur n'est pas pensé pour l'histoire. Chaque jour est un jour nouveau. Et cette idée du slow, c'est aussi l'idée que la technologie doit se réduire en termes d'espace pour te donner la possibilité de vivre ta vie et de faire d'autres choses. Or, aujourd'hui, toute la technologie peut prendre tout ton espace au nom de la productivité. C'est ça qui est en plus drôle, c'est qu'on te dit, grâce à nous, vous allez gagner beaucoup de temps. Et à chaque fois qu'un service te dit ça, en fait, tu passes ta journée dessus. Genre Slack, Gmail, etc., etc., tu vois.
En fait, ils te prennent ton temps. Et alors, la question que je me pose, c'est comment on fait ça? Est-ce que le Web 3, donc ce web décentralisé, peut-être que tu peux expliquer deux minutes ce que c'est? Est-ce que c'est le Web 3 qui est une solution, ou est-ce que c'est une forme de juridiction européenne? Comment tu le mets en place, ce slow web? Déjà, comment les politiques réagissent? Parce que je sais que tu travailles aussi quand même pas mal avec des politiques sur le domaine. Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils comprennent les problématiques? Parce que j'ai pas la sensation qu'ils comprennent bien de quoi on parle.
Attention, je fais une petite précision. Je ne travaille pas avec eux. Ça, c'est arrivé, il y a plusieurs personnes, dont plusieurs candidats, qui m'ont contacté pour parler de ces questions, parce que je crois que ce que beaucoup de gens sont en train de se rendre compte, c'est que dans le monde physique, ce qui fait que l'Europe est un endroit attractif, c'est aussi un endroit où il fait bon vivre. C'est un endroit où finalement, on nous dit toujours qu'on est paresseux, mais la réalité, c'est qu'en France, les gens bossent très bien. Mais après, quand ils partent du bureau, ils vont voir leurs potes, ils font autre chose. Moi qui habitais longtemps à la Silicon Valley, tu connais très bien ça aussi, c'est tu quittes ton bureau et tu vas à un truc de networking, un machin, et tu as l'impression que tu passes ta vie, en fait, dans ton bureau et tu switch off pas.
Ouais, c'est ça.
Même quand mes potes viennent à Paris, ils disent « Ouais, on va aller au Louvre, on va faire ça. » Et puis, alors, comment c'était? Ah ben, j'étais obligé d'arrêter, j'avais une conf call sur Zoom. Donc voilà. Et donc, il y a une vision européenne des choses où on prend le temps, où la culture, le patrimoine, c'est des choses importantes. Comment on met ça online? Et donc, est-ce qu'on peut construire une culture numérique européenne qui soit pas que différente d'un point de vue technologique, parce que honnêtement, toutes les technologies se valent, mais d'un point de vue culturel, tu es quelque chose de différent, tu es quelque chose qui permet d'émanciper les gens et pas uniquement d'en faire des outils de productivité horaire. C'est ce qu'on appelle la taylorisation de la pensée, où tout le monde en fait devient une brique de la réflexion et tu ne peux plus penser par toi-même parce que tu vois, on te demande juste corrige ça, fais ci, fais ça. Et donc, tu n'as plus d'input global sur un truc, t'es juste une petite. Comment? Et ça, c'est vrai aussi dans la vie où, en gros, tu sers l'internet, c'est juste un outil maintenant pour te faire consommer plus de choses. Alors que tu devrais consommer de la culture, tu devrais faire des choses différentes. Il y a vraiment et je pense qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça. Alors, c'est un sujet qui est pas encore très développé, parce que quand tu expliques aux gens que le problème de Facebook, c'est pas tellement Facebook, c'est le monde qu'il génère, et qu'il faut donc construire autre chose pour avoir un autre environnement autour des réseaux et des services qu'on utilise. C'est pas encore très clair, parce que je crois que c'est aussi un monde à inventer et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément de capacité d'abstraction ou d'imagination pour l'instant. Pour venir rapidement sur Web3, dont je ne suis aussi pas un spécialiste, moi, ce que je trouve fascinant avec le Web3, c'est que tu as d'un côté, c'est l'aspect politique en fait, et entre d'un côté les boomers, je simplifie évidemment, fait toute leur vie et toute leur retraite autour de la destruction du monde. C'est-à-dire que, pas forcément, c'était pas quelque chose qu'ils voulaient, mais quand tu travailles chez Total ou tu travailles dans une grande industrie chimique ou dans un truc de voiture ou à un moment donné, tu contribues à l'extraction et tu as maintenant une génération, alors je simplifie aussi parce que c'est pas totalement vrai, ce qu'on appelle les Gen Z, qui est dans une vision beaucoup plus régénératrice de la société, qui imagine un monde différent. Et pour ça, il faut un système de valeurs différent, et puis il faut aussi un système économique différent. Et donc, ce que tu vois aujourd'hui avec toute cette profusion de blockchain, de services numériques, est quelque chose qui, à mon avis, très générationnel. Tu as énormément aux États-Unis, alors c'est peut-être moins vrai en France, aux États-Unis, beaucoup de gens de la génération Z qui ont déjà un pourcentage important de leur patrimoine, qui n'est pas aussi grand que celui des boomers, comme tu l'imagines, en crypto.
Évidemment.
Et donc, j'aime bien cette idée que, tu vois, votre monde ne nous plaît pas, ou les valeurs de votre monde ne nous plaît pas, on va construire quelque chose d'autre. Après, la crypto, t'as aussi un truc très lié à l'argent et à la spéculation. Mais ça, c'est plus les crypto-monnaies que les infrastructures, ce qu'on appelle les DAO, donc les organisations décentralisées autonomes, qui me rappellent à l'époque ce qu'on appelait les TAS, les zones d'autonomie temporelle de Akinbe, qui était un peu le penseur des tout débuts de Burning Man. Donc, cette idée de construire un environnement autonome qui va créer une sorte d'utopie pendant un moment et puis ensuite disparaître et faire autre chose. Bon, c'est typiquement l'idée de base de Burning Man. Et donc, t'as quelque chose de très culturel là-dedans. Et donc, c'est à mon avis, un sujet qui est fascinant quand tu le regardes par ce biais. Après, bon, t'as les NFT, t'as plein de choses. Tu sens qu'il y a plein de choses qui sont en cours de devenir de construction. Ouais. C'est-à-dire que toi, le métaverse ou peut-être ton iPhone, parce que je crois que l'iPhone va devenir le wallet hardware, parce qu'il y aura une puce pour le sécuriser. Tu auras tes possessions numériques, t'as plein de choses. Après, moi, j'avais tendance au départ à pas être sceptique, mais avoir du mal à comprendre les choses. Maintenant, j'ai une approche beaucoup plus différente, c'est de me dire, il y a quelque chose qui se construit, et la même manière que les informaticiens qui avaient des mainframes nous regardaient avec des yeux quand on faisait de l'informatique sur un PC en disant c'est pas un ordinateur, c'est pas ci, c'est pas ça. T'as pas envie d'être le vieux con qui dit à la génération actuelle. Donc je regarde ça évidemment, je m'intéresse mais moi c'est plus l'aspect politique et culturel qui me fascine que l'aspect spéculatif, pour être honnête.
Et tu parlais tout à l'heure d'utopie. Est-ce qu'il y a des livres, parce qu'on a bien compris que tu étais passionné de science-fiction, et je crois, en fait, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent se rendent compte à quel point, la science-fiction, j'avais fait un épisode d'ailleurs là-dessus avec, Guy Philippe.
Oui, bien sûr.
Sur le rôle de la science-fiction dans la société. Est-ce qu'il y a des utopies qui peuvent être intéressantes à lire ou à regarder en ce qui concerne ces mondes qui peuvent se créer? Ou est-ce qu'on est toujours dans la dystopie?
On est pas mal dans la dystopie, je dois avouer. Hein.
c'est vrai.
Non, mais c'est fascinant parce qu'il faut aussi voir qu'une grande partie des films de SF des années 80 sont issus de Philip K. Dick, qui était quand même un auteur très torturé, qui en plus avait compris une chose assez froide de la société. C'est-à-dire que, en gros, dans les années 50, la science-fiction, c'est nous allons visiter des mondes différents et nous sommes étrangers dans des mondes différents. Et avec Philip K. Dick, mais aussi avec d'autres écrivains comme Ballard ou Burroughs, c'est le qui a écrit Le Festin nu. Et Ballard a fait un truc génial qui s'appelait High Rise, qui est d'ailleurs sorti en film, mais qui n'est jamais sorti, je crois, en France. C'était « L'homme est un étranger dans son propre monde ».« Stranger in a Stranger Land », c'était vraiment la… Et donc ça a fasciné beaucoup d'auteurs. Et puis visuellement, après, tu vois, Blade Runner a quand même aussi complètement… visuellement, c'est qu'après… après Blade Runner, évidemment, le style cyberpunk, néo-punk, jusqu'à Matrix, tu vois, c'était qui sont un peu les deux grosses influences visuelles. Donc tout le monde n'a été que dans des choses quasi similaires, et donc donc c'est difficile. Mais là tu me poses une colle, parce que des utopies en film de science-fiction, j'en ai pas vu beaucoup. Peut-être la fin de la machine à voyager dans le temps, où après avoir quasiment détruit la planète, on revient à un monde j'oublie, il y avait une utopie.
Vas-y.
Une utopie importante, c'est Star Trek. C'est d'ailleurs une des rares qui a perduré dans les années 80, qui était de dire on est dans un futur où les gens, quelle que soit leur couleur, peuvent et leur genre, parce que ça a été les premiers à avoir un capitaine noir, avec une capitaine femme, avoir une vision très très positive de la société. Et curieusement, ils ont refait une nouvelle série depuis quelques années, et là ils sont revenus dans les codes de la dystopie. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents, parce que c'est effectivement Star Trek a été longtemps cette idée que le futur est meilleur, on aura Bon, on passe par une troisième guerre mondiale, mais après, on reconstruit un monde où on va à s'étendre dans le monde et créer une relation symbiotique avec plein de peuples. Mais fondamentalement, c'est difficile, hein, parce que la dystopie est tellement proche de la réalité que...
Mais c'est peut-être aussi pour ça, quand tu disais les politiques et les gens de manière générale ont du mal à imaginer ce monde qu'il faut réinventer, c'est aussi peut-être parce que on n'a pas d'imaginaire qui nous projette dans ces mondes-là. On est dans des imaginaires qu'on voit dans les films, dans les musiques, dans les livres, enfin partout dans la culture, qui sont très dystopiques. On a très peu de projection positive, et quelque part il y a peut-être aussi un truc dans la nature humaine qui est que on est plus attiré par la dystopie que par l'utopie, non?
Oui, bien sûr, mais je crois aussi que si tu veux, dans le monde, t'as trois types de profils. J'ai toujours pensé, même dans la tech, t'as trois types de profils. T'as les builders, t'as les bâtisseurs, les consultants et les communicants. Un bâtisseur, quand on lui parle de quelque chose, là, et j'ai un peu envie de dire, c'est un peu j'espère ce que je suis, c'est je réfléchis d'abord à comment je construis. Un consultant, il se pose la question, il va faire du benchmarking, c'est qui peut le faire. Et puis un communicant, évidemment, c'est il n'a ni construit ni choisi, mais il communique. Et dans une vraie boîte, une bonne start-up, c'est un mélange de tous ces profils. Il n'y a pas un profil qui est meilleur que l'autre, c'est différent. Si t'as pas de bâtisseur, si t'as un très bon bâtisseur et un mauvais communicant, ben
ça c'est
voilà,
la France.
Voilà. Et puis voilà, c'est ça. Mais le problème qu'on a aujourd'hui d'un point de vue politique, c'est quasiment tous les gens à la tête de l'État sont des consultants. C'est pour ça qu'on a des problèmes avec la vision de la souveraineté. C'est que la souveraineté, ça se construit, ça se décrète pas. C'est pour ça qu'on a des gens qui te disent, ben finalement. On va utiliser Doctolib plutôt que construire un réseau de santé. Enfin, il y a plein de choix qui sont aussi liés. Alors après, faut-il le rappeler, tout n'est pas facile à faire, parce que fabriquer, c'est dur. Fabriquer, c'est du risque. Fabriquer, quand on a des enjeux énormes, c'est très, très dur. On a quand même réussi un truc incroyable, c'est fabriquer des usines de vaccins ARN aux US et en Europe pour délivrer les doses dont on avait besoin. Des sommes incommensurables. On n'avait jamais fait ça avant à ce niveau. Donc, tu vois, il y a eu quand même des choix incroyables qui ont été faits. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de bâtisseurs en Europe que de consultants. Ou en tout cas, il faut qu'on ait un meilleur équilibre entre les différents types de profils.
Mais on a des bâtisseurs en Europe. Enfin, il me semble qu'on a des bâtisseurs. On manque de communicants. On a des gens qui sont... Enfin, en tout cas, quand tu regardes de ce qui se passe dans la Silicon Valley, en particulier dans l'intelligence artificielle, on a les meilleures personnes quasi sur l'IA, ça reste des Français. Donc, on a des gens qui savent faire, non? J'ai l'impression.
Oui, non, bien sûr, on a toujours eu des gens qui savent faire, mais on a un vrai problème aujourd'hui qui est un problème d'histoire. C'est qu'il faut renouer avec l'histoire du numérique français et de se rappeler, en fait, que, par exemple, Linux, le web... Python, MySQL, c'est-à-dire tout ce qui a permis en fait à Google et aux autres d'exister a été inventé en Europe par des gens européens, que des startups, tu parlais de NetWise, on était un peu la licorne de 2005 d'une certaine manière, mais tu as eu avant nous plein de gens qui ont monté des boîtes à l'époque du web 1.0 qui étaient super intéressantes, tu as eu des gens qui ont construit des boîtes d'ordinateurs, d'informatique. Le premier micro-ordinateur, donc la première start-up d'informatique au monde, c'était François Gernel avec le Micral en 73. Donc, tu vois, on a, et avant, on a eu plein d'autres choses. Et donc, comme on oublie, on a tendance à parfois de s'auto-bâcher et d'oublier qu'en fait, on a été dans une culture différente. Alors, c'est vrai qu'on a des défauts qu'on n'est pas toujours très bon en marketing. Mais quand je regarde le marketing qui était fait dans les années 80 et 70 de certaines boîtes dites d'informatique, il n'était pas mauvais du tout. Le problème, c'est qu'ils avaient en face d'eux des gens, des grosses boîtes qui ne voulaient pas les acheter. Et aujourd'hui, quand tu regardes le problème qu'on a, c'est aussi une question de marché. C'est-à-dire que quand les gens achètent tes produits, t'embauches un meilleur marketeur. Et ça, il y a un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es toujours au minimum et que tu n'oses pas trop prendre de risques, tu te dis, est-ce que je prends une équipe plus senior et je tue peut-être ma boîte parce que je n'aurai pas les clients, ou est-ce que j'attends et je fais au mieux. Et donc, on a beaucoup de gens qui font au mieux. Alors c'est vrai qu'on est, on travaille pas assez en écosystème en France. On devrait être plus, c'est-à-dire plus s'intéresser aux autres et ce qu'ils font et arriver à. Mais bon, ça c'est aussi, je pense, lié à la taille du marché. On est sur un marché, là je pense au marché du cloud, microscopique. Alors les startups maintenant ça a changé parce qu'on commence à avoir des boîtes de très bonne qualité, qui ont des super gens. Moi je pense notamment à Zenly qui est quand même super fort dans les réseaux sociaux. Et puis t'as plein d'autres boîtes maintenant dans les réseaux sociaux français. C'est une nouvelle génération qui arrive de gens qui font des choses très intéressantes. Donc il y a à mon avis il faudrait juste que l'aspect culturel, c'est-à-dire le fait que ça vient d'Europe, que c'est différent et que, ou que ça vient même de France et que c'est différent, doit être un argument marketing dont on doit être fier, si tu veux.
Parce que c'est vrai que, tu vois, tu parlais du Covid, on a refilé à Microsoft la gestion des données, et en même temps, ça a été moqué quand, il me semble, le gouvernement a essayé de faire un outil français et en fait, ça marchait pas, quoi.
Ben c'est compliqué parce que tu as aussi beaucoup de choses. Alors, la question de tout ce qui est souveraineté numérique qui est un vrai sujet parce que c'est aussi, la souveraineté est aussi, en fait, une façon de se dire comment je fonctionne quand, c'est-à-dire quel type de numérique je veux créer au niveau de l'État. Est-ce que je veux créer un système où on n'aura plus de gouvernement? On aura juste des applications. Donc, t'as plus de fonctionnaires, t'as plus rien. Ou est-ce qu'on construit un gouvernement qui est basé sur une organisation où il y a une partie qui est humaine et une partie qui est numérique? Moi, je suis persuadé qu'une grande partie des gens qui ne se sont pas vaccinés, qui ont plus de 75 ans et donc qui sont en risque, comme tu le sais bien, c'est aussi parce que Doctolib, c'est pas pour eux. Doctolib, c'est pour nous. Nous, quand on a un problème, on prend une app, on fait tac, 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 et puis c'est réglé. Ces gens t'appellent, en général, tu fais le support, tu te rends compte que le système, en fait, et puis t'es un peu gêné parce que, soudain, tu dois prendre la main sur un système de tes grands-parents ou des gens que tu connais, et puis tu te rends compte qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir quelqu'un pour leur parler parce que toute leur vie, c'est ce qu'ils ont fait. C'est que l'email sécurisé avec le tampon, c'est, tu vois, avec les certificats numériques, c'est super. Mais aller voir quelqu'un qui dit merci monsieur et qui fait un coup de tampon, dans leur tête, c'est ça, en fait, l'administration. Et donc, il y a un vrai travail à avoir là-dessus qui est, à mon avis, une hybridation. C'est-à-dire qu'en gros, on crée des outils pour les gens comme nous qui peuvent faire ça en 3 minutes pour que, justement, les gens dont c'est le métier dans les administrations passent l'heure qu'il faut, parce que parfois on m'a dit, un médecin m'a dit, pour convaincre des gens au fin fond de la Savoie, il lui fallait parfois 1 heure, mais c'est son métier, c'est ce qu'il fait, et il adore ça. Et il me dit, bah, finalement, les gens vont se vacciner. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui, on le voit, parce que pour moi, la médecine, c'est les données de santé, et je le rappellerai très brièvement, c'est très important pour une raison, c'est que dans le monde pré-Covid, vous êtes diabétique, vous avez de l'hypertension, vous avez un peu de cholestérol, vous avez ci, ça et ça. OK. Dans le monde du Covid, tous ces gens qui ont ces problèmes, désormais, c'est des comorbidités. Ça veut dire, est-ce que je vais avoir un prêt pour ma maison? Est-ce que je vais avoir... Donc, ça veut dire qu'on a changé les facteurs de risque. Et donc, la question, c'est que ce qui vous identifie en tant que facteur de risque dans la vie quotidienne, est-ce que vous voulez que ce truc parte nulle part, soit revendu à des... La réponse est très probablement non. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner l'exemple et s'assurer que protéger les utilisateurs dans un monde où on connaît tellement sur vous qu'on peut en fait prédire ce que vous allez faire. Et ce n'est pas le rôle de l'État de prédire ou d'utiliser le big data pour analyser les citoyens. Le rôle de l'État, c'est d'être un acteur neutre, juste et qui est en relation avec chacun et qui nous traite chacun de la même manière. Dès lors qu'il y a un algorithme qui te traiterait toi différemment de moi, le fait d'être citoyen, cette idée de toi et d'être citoyen libre et égaux en droit disparaît. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un combat qu'on doit tous collectivement avoir. C'est pas donc cette question de la souveraineté des données. La relation que l'État a avec les données, la question des libertés publiques, ce sont des sujets fondamentaux parce que dans les 10, 20 ans qui viennent, toute notre vie sera définie par rapport à ça.
Bien sûr, c'est fondamental. C'est fondamental. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Moi, j'ai envie d'ouvrir... j'ai envie de rouvrir une page culturelle déjà dans ma vie, puisque je me mets à écrire. J'ai écrit une newsletter là, un autre web est possible, et qu'on peut retrouver là sur mon Twitter, mais aussi je pense qu'on est dans une nouvelle ère culturelle, et c'est fascinant parce qu'après, tu vois, 2 ans à ne faire rien d'autre qu'être sur tes écrans à des visioconf, c'est pour moi le grand je trouve la grande nouveauté, c'est que on a tous réfléchi à plein de choses, des changements de vie, et on a plein d'idées, et là tu es en train de voir une explosion culturelle, et je trouve ça fantastique.
Et ça, c'est génial, effectivement. Merci beaucoup, Tariq, pour ton échange. Parce qu'en fait, tu t'en rends pas forcément compte, j'imagine, parce que t'as pas le recul et que tu as l'habitude de parler de tous ces sujets-là. Mais je pense que tu aides ou tu as aidé beaucoup les personnes à comprendre tous les enjeux. Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se dire « Merde, il faut qu'on quitte les réseaux sociaux après l'écoute de ce podcast. » Je pense que la très grande majorité le feront pas, parce que c'est évidemment socialement intégrant d'être sur ces réseaux, et puis c'est pratique à plein d'égards, évidemment, par ailleurs. Mais on se rend compte aussi, en t'écoutant, de la complexité des problématiques, et de dire c'est pas uniquement Facebook. En fait, c'est le monde qu'on a construit qui est problématique. Et moi, ça, je trouve ça... Enfin, abyssal, et effectivement, comme on l'a discuté, ben, on n'a pas vraiment défini ce monde utopique dans lequel on aimerait aller, et on n'a même pas parlé, on en a très brièvement parlé de l'impact, évidemment, carbone de tous les serveurs qu'on utilise pour faire ce genre de choses. Évidemment, ça, c'est encore un autre pan. Il y a toute cette dimension politique qu'on n'a pas non plus abordée, on a un petit peu abordé sur la souveraineté numérique. Mais en fait, on se rend compte à quel point le numérique est rentré dans nos vies, et à quel point, en fait, ça a des impacts à tous les endroits de notre vie. Et en particulier, tu le disais, j'avais jamais eu cette réflexion sur les rêves, mais dans notre intime, en fait.
Et oui, c'est un vrai sujet. Moi, je n'ai pas quitté les réseaux sociaux. Par contre, j'ai une règle très simple désormais. Tout ce qui me met dans un état inconfortable, et donc tout ce qui ne m'inspire pas, je me désabonne. Je me suis désabonné évidemment de tous les sites de news. J'ai écrit d'ailleurs, si vous allez sur mon Medium, j'avais écrit « Comment vivre dans un monde où notre compas moral est challengé tous les jours ?» C'est bon, c'était à l'époque de Trump et après les attentats. Mais je crois vraiment que une des forces que l'on a, c'est de choisir ce que l'on veut. Vous intéressez à la science, à l'art, ben, il faut suivre les artistes et les scientifiques. On s'intéresse au cinéma, il faut revenir vers les sites de cinéma. Il faut revenir vers... cette multitude de possibilités, et ça, je crois que c'est vraiment important. Donc il faut apprendre en fait à avoir une consommation raisonnable de tout, et je sais que c'est pas facile.
C'est pas simple, parce que il y a pas mal de neurosciences scientifiques qui travaillent au fait qu'on reste le maximum de temps sur ces réseaux, donc c'est pas forcément simple. Merci beaucoup Tariq, c'était passionnant.
Merci beaucoup à toi Greg.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !